7h, 9h, plus près de toi.
Au revoir.
Il est très mignon cet enfant, mais il ne sait pas ce que c'est que la vie adulte, ce qui se passe les nuits. Quand on se réveille comme un vieux chat de gouttière qui se serait garé sur des pavés humides, sur des pavés mouillés, sur des toits en ardoise, sur des toits penchés, on glisse et on se rattrape avec nos griffes quand on en a, ou sinon avec les doigts nus, sans protection des gants, les coussinets qu'on a au bout des doigts qui permettent de caresser les choses avec douceur, comme un vieux chat de gouttière ce matin qui est là. Dans ce grand nulle part qui n'est ni la joie du dimanche matin qui va s'étirer et se caresser soi-même comme des journées où tout nous appartient, qui n'est pas non plus le lundi avec sa dureté, sa pénibilité, des choses qui recommencent et des éternités retrouvées, non. Ce presque rien, ce je ne sais quoi, ce mardi, ce jeudi, ces jours sans identité, ces jours qui n'existent que parce que les autres existent et qu'on se raccroche à eux et pas au temps qui passe. Un mardi matin, ni la banlieue tentaculaire, ni le centre-ville qui crève d'être historique et de se refermer derrière les volets clos et le passé, et l'avenir qui lui ressemble aussi. Une zone presque pavillonnaire, avec un ennui qui serait ni misérable ni trop riche, ni une chambre de Formule 1 froide et glacée, ni l'arrogance d'un palace où on n'est jamais chez soi, mais chez les autres, d'un argent qu'on n'a pas et qu'on dépense quand même. Un matin comme un autre qu'il va falloir inventer soi-même, sans se raccrocher au calendrier, sans se raccrocher au temps qui fait, avec juste la conviction intime que c'est maintenant que ça se passe, se raccrocher au petit rien, au je ne sais quoi. Allez, on y va, salut.
Qu'est-ce qui dit Thierry
Paret? Salut Edouard, bonjour
Thierry
à tous.
Thierry Paret, les gens ne se rendent pas compte que vous êtes en turquoise et jaune, ce t-shirt.
C'est vrai.
Et c'est très gentil.
J'ai mis un peu de couleur.
Je trouve que c'est gentil parce que, vous savez, le chanteur Carlos était furieux. C'était le seul qui mettait des chemises hawaïennes dans la rue. En plus de chanter Big Bisou, Papayou. Qu'est-ce qu'il chantait d'autre, Armel?
Si, si,
Armel.
Je ne sais pas.
Armel, il fait partie du mouvement.
C'est le grand spécialiste.
Du mouvement des gens de Nova pour le retour de Carlos à l'antenne.
Si, un spécialiste, c'est lui.
Eh bien, il mettait des chemises hawaïennes, il se plaignait que tout le monde il disait une phrase quand on s'est dit, dis donc t'as osé le gris ce matin, voilà le gris, le marron, le bleu marine, on en a, Thierry Paret, turquoise et jaune, le journal de 7h et quelques.
On va peut-être pas ouvrir avec Saint-Pétersbourg du coup, mais plutôt avec ce débat ce soir, hein. Bienvenue en terre inconnue, ce soir aura donc lieu un débat télévisé avec les 11 candidats à la présidentielle, une initiative inédite dans l'histoire de la République. Trois grands thèmes au programme sous forme de trois questions qui seront donc posées aux candidats, comment créer des emplois, c'est la première, la deuxième, comment protéger les Français, puis enfin comment mettre en œuvre votre modèle social. Chaque candidat disposera d'un gros quart d'heure de parole en tout, 17 minutes même précisément. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui a été désigné pour ouvrir les débats et c'est Marine Le Pen qui a été désignée pour les refermer. Évidemment, tout a été tiré au sort, hein, le placement des personnes, des candidats, en l'occurrence qui vont être en arc de cercle, enfin voilà, comme sur un plateau de télévision assez classique.
Ça va être de toute beauté, vraiment. Ne loupez pas ça, j'ai vu les répétitions, il y aura du patinage artistique, enfin ça va être de toute beauté.
Coup d'envoi 20h40, 45 je crois. L'abstention, ennemi public, non, ennemi numéro 1 de la présidentielle, ça oui. À moins de 3 semaines du premier tour, la participation pourrait atteindre un plancher inattendu pour une élection à la magistrature suprême. Certains instituts de sondage évoquent une abstention de l'ordre de 30%. C'est-à-dire comme en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié pour le deuxième tour. Au moins 11 morts et 45 blessés, c'est le bilan d'une explosion dans une rame du métro de Saint-Pétersbourg hier en Russie. En fin de journée, la Commission nationale antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête pour acte de terrorisme. Voilà, Vladimir Poutine s'est rendu sur place. Une bombe artisanale a aussi été découverte, une autre, hein, dans une autre station de métro de la ville, mais celle-ci, elle a pu être désamorcée. Et puis, la sécurité, du coup, a été renforcée dans les transports publics en Île-de-France, avec des effectifs de gendarmerie supplémentaires. La Guyane, qui s'apprête à vivre une nouvelle journée de grève générale, les négociations avec le gouvernement ont été une nouvelle fois rompues. Hier, les Guyanais réclament toujours un plan d'urgence de 2,5 milliards d'euros, une revendication jugée irréaliste, hein, par le Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Qui veut 2 milliards?
Les Guyanais, 2,5 milliards. Exactement.
2 milliards, c'est quoi 2 milliards, hein? C'est idiot, on vous les aurait demandé, vous les auriez donné.
Évidemment. Lénine Moreno, 51,16%. Guillermo Lasso, 48,84%. C'est le résultat officiel et très précis de la présidentielle en Équateur, remporté donc par le candidat socialiste. Problème.
Très précis.
C'est très précis. Mais c'est important parce que le vaincu refuse le résultat du scrutin et ça peut ouvrir une crise importante. En fait, en Équateur, Guillermo Lasso, qui est un homme d'affaires, qui est celui qui a perdu, évoque de nombreuses preuves d'irrégularité dans le processus électoral. À mon avis, on n'a pas fini de parler de cette affaire. Un juge américain, mais ce n'est que mon avis,
Non, mais il est bien, à votre avis.
Un juge américain a rejeté la demande du cinéaste Roman Polanski de pouvoir revenir aux États-Unis sans être menacé d'emprisonnement 4 décennies après avoir fui le pays à la suite du viol d'une mineure. Après avoir perdu la finale de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue, pardon, face au PSG samedi dernier, Monaco a rendez-vous face à Lille ce soir en quart de finale, cette fois de la Coupe de France. C'est Monaco qui reçoit, coup d'envoi 21h, auparavant à 18h. Celui qu'on appelle le petit pousset de la compétition, Fréjus va recevoir Guingamp et puis les deux autres quarts de finale auront lieu demain. Ils opposeront Angers à Bordeaux et Avranches au PSG.
Ah voilà! Alors, c'est de toute beauté, là, hein?
Oui, moi, j'ai une idée.
J'ai une idée. Oui,
pour la Guyane, j'ai une idée. On n'a qu'à envoyer l'Imajor.
Qui est l'Imajor?
C'est l'homme qui valait 3 milliards.
C'est très drôle.
Non, mais
c'est très bien.
Non, ouais, mais il y a un demi-milliard de trop, quand même.
Il y a un milliard de trop, il le rendait bien, ils vont peut-être pas. François Rollin, vous êtes arrivé pendant les impôts, je trouve. Les infos. Je ne trouve pas ça respectueux, parce que Thierry Paret était là vraiment en faisant très bien ce métier d'être informé. Oui. Vous êtes arrivé, salut les mecs.
Oui, c'est vous qui débarquez, Edouard, parce que en fait, j'ai appelé Thierry tout à l'heure au téléphone et il m'a dit, te casse pas pour le journal, il n'y a pas grand-chose dedans, arrive quand tu veux, arrive en plein milieu. Mais oui.
Ah oui, mais vous appelez chez vous?
À la maison, oui.
Il a le téléfixe.
Oui, téléphone.
Donc ça sonne où, dans quel piège chez vous?
Dans la salle à manger.
La salle à manger d'été?
Oui.
À côté du jardin d'hiver et de la piscine.
Voilà. Bah, derrière la serre.
Alors, il y a la serre, il y a le tennis de votre cuisinier.
Mmh, oui.
Là, il y a la buanderie, là où on fait. Il y a les lessiveuses dessus.
Oui. Et bien, vous voyez, au-dessus des garages.
Alors, lesquels? Les garages de voitures de sport ou
les garages de voitures italiennes.
D'accord. Alors, oui.
Et quand vous montez au-dessus.
Il y a la Lamborghini Mauve, la nouvelle, qui est bien.
Voilà.
Alors, il y a l'escalier qui a un ascenseur.
Voilà, le petit ascenseur. Et là, vous
téléphone.
Et là, le téléphone sonne.
Et vous décrochez vous-même.
Et c'est mon Thierry qui dit, écoute...
ouais. Hein, et il décroche lui-même, mon Rollin, il a su rester très simple. Il n'a pas changé à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Énorme moyen mis en œuvre par Radio Nova ce matin, mardi 4 avril. Des correspondants dans toute la France nous tiennent au courant tout de suite. On y va. François Rollin, vous êtes où?
Toulouse.
Toulouse, qu'est-ce que vous avez vu, entendu à Toulouse qui mérite d'être apporté à la radio?
Alors, à Toulouse, les gens ne sont pas contents parce que le débat de ce soir se passe à Paris et tout le monde n'a pas les moyens de monter à Paris. Donc, il y a des tas de gens qui ne verront pas. Qu'est-ce qui se passe?
Le débat a lieu au TF1 de Paris ou France 2 de Paris? Thomas Baumgartner, vous êtes où, vous?
Moi, je suis à Thionville.
Vous entendez ce qu'on dit, là, à Toulouse, à Paris?
Vous êtes beaucoup trop loin.
Oui. Ce truc va pas marcher longtemps. Ça commence à être éventé. Les plaintes commencent à monter. Donc, il a lieu où, ce débat?
Ce sera sur CNews et BFM TV, ce soir.
D'accord. Et à Thionville, ils auront un moyen de le regarder ou pas?
Oui, certains appareils ont été distribués.
On est à Paris avec Marie Missé.
Oui.
Marie Missé,
oui.
À Paris, est-ce qu'il y a toujours cette arrogance, cette certitude, ce truc d'être au centre de la France? Ça continue, ce truc-là?
Ça va pas s'arrêter.
Oui, c'est très centralisé, ce pays. On y reviendra avec le billet décentralisation de François Rollin à 10h25. Marie, vous avez vu quoi dans la presse?
Alors, j'ai vu cette interview d'Emmanuel Macron dans Le Monde à l'instant. Hein, donc,
à
je réagis à chaud.
On est vraiment à chaud.
Je l'ai
c'est
lu.
Une interview comme un croissant.
Il y a 2 minutes et j'hallucine.
Très parisien, ça.
C'est Dreamland, a-t-elle dit.
Qu'est-ce que vous dites à Thionville?
C'est Dreamland, a-t-elle dit.
Thionville, Toulouse, vous disiez quoi?
Dreamland aussi.
Dreamland aussi, oui.
Pas une seule question sur le programme. Pas
rien.
Une seule.
On ne parle pas
rien.
Du programme, on parle de ses costards.
On parle de son argent, de son rapport avec Marine Le Pen, de s'il est l'héritier de François Hollande. Pas une
non,
question.
Non, mais elle hallucine. Atmen, vous êtes où, là?
Vesoul.
Atmen de Vesoul, vous avez entendu ce qu'a dit Marie Missé sur Macron?
Oui, et ça... justement, je peux compléter.
Allez-y.
Renaud, le chanteur, dit qu'il soutiendra Macron avant qu'on lui demande.
Ça se passe à Vesoul en ce moment?
Oui, on l'a appris qu'à Vesoul.
Tito, vous parliez des Mories. Tito, notre correspondant Aquitaine, qui est où?
Alors, moi, je suis chez moi, je suis au Mories.
Mais oui, mais je te vois.
Ah, merde.
Incroyable, je le vois. Donc, c'est la saison des Mories.
C'est la saison des Mories. Courez dans les bois, allez les ramasser. Alors, ça se trouve sous les petites haies. Sous les vieux pommiers, au-dessous des frênes. Et jusqu'au mois de juin, vous pouvez en ramasser. La morille, c'est merveilleux. On en met dans les sauces, on en met partout. Courez dans les bois, mettez vos bottes et attrapez vos petits sacs.
Sous les pommiers
qu'on sous connaît, les pommiers,
d'accord.
Ouais.
Comment on connaît un pommier quand il n'y a pas de pommes? Les feuilles sont comment?
Ah ben, il n'y a pas de feuilles.
On demande si c'est un pommier. Sous quels autres arbres on trouve
alors,
des morilles?
Sous les épicéas, sous les ormeaux, sous les merisiers, sous les bouleaux. Mais surtout sous les petites haies. Si vous avez des petites haies dans vos prés, là, vous faut fouiller là-dessous.
Petites haies.
C'est des champignons de printemps?
Marie
oui,
Paris.
Oui, tout à fait. La morille, c'est maintenant, c'est mars.
François Rollin, vous qui êtes à Toulouse, comment vous cuisinez les morilles? Je sais que vous êtes
oui,
un
Morquella, fan. Oui, Morquella Rotonda, la morille classique savant, et tout oui, ça. Alors, très très agréable de les faire revenir un peu et avec un peu de vin jaune. Et puis,
du vin hop, jaune, crémé, très légèrement. Un peu crémé quand même.
Oui, légèrement, légèrement.
Et le matin, on s'envoie ça avec une petite planchette de...
Avec
on est bien, on est bien oui. Et on se gérera de par 10 dans les 48 heures. Atmen Khelif,
la recette des morilles whisky.
Oui, ça alors, juste, oui, mais sans les morilles.
Oui, voilà, bah
c'est ça. On achète des morilles, bouteille de whisky, on met les morilles à cuire, on boit la bouteille de whisky, amère les morilles. Voilà. Alors attention, vous n'êtes pas en forme. Tout de suite, on appelle, on est à foie avec Magali Blachon. Magali.
Oui,
Magali, grâce à qui j'ai eu un corps de rêve pendant les années 90 et puis qui est la plus grande professeure de sport de France. Et comme vous êtes à foie, on doit faire les cours de sport à la radio.
Bah écoutez, c'est super, surtout que j'ai entendu qu'il fallait courir pour aller chercher Maury, donc on y va.
Alors tout le monde debout.
Non, j'ai pas mon survêt.
Alors Magali,
j'ai pas mon survêt.
Chez vous, si vous êtes chez vous devant votre radio, on y va, on se lève et on écoute bien les conseils de Magali Blachon en direct de foie. On envoie la musique Armel, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y Magali.
Et alors c'est parti, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de jogging, que tout le monde
était. Ouais, j'ai pas de jogging.
C'est pas grave, c'est faisable. Donc tout le monde debout.
Ouais.
Donc c'est parti, on travaille d'abord la respiration. Donc vous mettez les mains sur le ventre, vous inspirez en sentant bien votre ventre gonflé. À l'expiration, vous relâchez la mâchoire. Vous imaginez que vous faites de la buée sur un miroir et vous amenez le nombril vers le cœur. Inspirez, grandissez le ventre. Inspirez, amenez l'air bien dans le bassin. Expirez, écopez, amenez le nombril vers le cœur. Et vous relâchez. Vous continuez cette respiration, vous montez les mains au plafond. Vous inspirez, vous amenez bien l'air dans le bas du ventre. Vous tirez les bras vers le plafond. Expirez, écopez, amenez le nombril vers le cœur, relâchez les bras. Et on refait une dernière fois. Inspirez, levez les bras le plus haut possible. Sentez que les omoplates s'étirent loin, loin, loin de la colonne vertébrale. Expirez, écopez, sentez le ventre qui se rétrécit, que la sangle abdominale se resserre, relâchez les bras. Et là, on va bouger un tout petit peu. Vous amenez doucement talons fesses sans sauter, en gardant les pieds au sol, le contact des talons vers les fesses, les genoux vers le sol. Et vous continuez cette respiration ventrale. Vous inspirez bien en gonflant le ventre. Expirez en sentant que le nombril va vers la colonne vertébrale et vers le cœur. Sentez le ventre qui se resserre comme un étau.
Oui. Comme un étau.
Et on change, vous gardez toujours les pieds au sol et vous allez maintenant amener les genoux vers le plafond. Vous gardez les pieds toujours en contact au sol.
J'ai pas compris.
Comme ça.
Oui, ça y est, d'accord.
Voilà, pas de saut pour l'instant, pas de saut. On y va progressivement, on se réveille pour aller chercher Maury. On lève les genoux vers le plafond.
Elle a ses patates.
Magali, il faut donner un mouvement final, un mouvement final.
Un mouvement final, bah écoutez, de nouveau, vous inspirez les bras vers le plafond, vous fléchissez les genoux, vous relâchez la tête et les bras vers le sol et vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale, les vertèbres, les unes après les autres.
Écoute ce que te dit la grande Magali. J'y vais, j'y crois, les mains, les bras. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai la pêche, je suis plus dans la dèche. 1, 2, 1, 2, 3. C'est qui le roi? C'est moi. Le corps d'abord. 1, 2, 1, 2, 3. Bonne journée à foie. Salut Magali, ça va beaucoup mieux. Allez, à tout à l'heure.
7h09, plus près de toi.
Ça va?
Plus près de toi.
7h 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Thomas Baumgartner, je vous vois penché sur ce magazine, assez affairé, assez intéressé. Oui. Vous la notez même, qu'est-ce que c'est?
Absolument, c'est Vanity Fair, c'est le numéro du mois d'avril de Vanity Fair.
Elle
s'appelle Kate Moss, elle commence, elle démarre.
Ouais,
vous voyez. Et non, mais je me suis arrêté sur l'article d'Olivier Bouchara qui revient sur une affaire qui date de 2010. C'était le vol de 5 tableaux au musée d'art moderne de la ville de Paris. 5 tableaux en une seule nuit, en 17 minutes. Et Olivier Bouchara a rencontré... le garçon qui a volé ses tableaux, qui s'appelle toujours Vjeran Tomic, qui est à Fresnes, mais est-ce qu'il a volé 5 tableaux? Pardon, j'ai pas compris.
L'homme araignée qu'on appelle l'homme araignée.
Absolument, son surnom c'est Spider-Man parce qu'il grimpe le long des façades. Il a volé dans la nuit du 20 mai 2010, du 19 au 20 mai, un Picasso, un Matisse, un Braque, un Fernand Léger et un Modigliani, tout ça en 17 minutes. Et en fait, c'est lui qui s'est qui a avoué directement aux policiers quelques semaines plus tard dans le cadre de d'une autre enquête, parce qu'il avait visité un appartement, il avait volé un autre tableau, il cherchait d'autres choses. Voilà, il a
enfin, été. Oui, il s'est fait prendre. Genre, c'est vrai qu'il n'avait pas payé des contraventions. Et c'est aussi moi qui ai volé 5.
Voilà, et j'ai volé pour je crois que ça représentait 104 millions d'euros en tout. Ça appartenait à.
On les a retrouvés.
Eh ben non, on les a pas retrouvés parce qu'il y a un intermédiaire dans l'affaire, parce qu'il a vendu pour 200 000 euros. Il attendait 200 000 euros, il a récupéré 40 000. Un antiquaire, et c'est un garçon qui travaillait avec cet antiquaire qui est place de la Bastille à Paris, qui les a jetés parce qu'il a eu peur. Tout le monde s'est pris entre 7 et 8 ans de prison dans l'affaire. Antiquaire, l'aide de l'antiquaire et puis et ce Vjeran Tomić qui est, comme souvent certains cambrioleurs comme ça, aussi un esthète. Il était un peu désolé parce qu'à un moment donné dans l'affaire, le Fernand Léger a été un peu troué. Mais par un intermédiaire.
Et le Fernand Léger qui a chez Rollin, il est bien...
Il n'est pas trop ici. Enfin,
vous l'avez acheté, celui-là ?
Oui.
Oui, pardon. Okay.
Alors, mais je ne me rappelle pas le nom du vendeur. Vous savez, Oh là là, s'il fallait tout faire des fiches.
Alors, il est 7h25, c'est l'heure du cache-cache. Tout le monde debout. Ah. Oui. Vous aurez remarqué que Tito n'est pas là. Attendez.
Il est rentré chez lui.
Alors,
ou quoi ?
Vous êtes chez vous, chers auditeurs d'Itris, vous êtes chez vous, vous dites, tiens, Tito n'est pas là. En effet, il est caché dans le studio. Je vous propose de participer ce matin à un cache-cache. Pour ceux qui sont dotés d'enfants, ils peuvent jouer aussi avec vous. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent faire deux voix. Oh, ouais, Tito. Voilà, alors, attention, Tito, un indice, Tito.
Je suis pas là.
Ah, alors on y va.
Ça vient du fond, non?
Ça vient du fond.
Il n'y a pas 36 000 endroits où se cacher dans ce studio.
Le studio est sous la table.
Oui, ce studio n'est pas si grand.
Et on l'entend, hein?
Oui, on l'entend.
C'est pas au canapé.
Attendez.
Il ressemble à quoi, déjà?
Attendez.
Pourquoi j'ai peur?
C'est très bizarre, oui, Tito.
C'est pas là. Là, il est pas là.
Il est peut-être parti.
Là, il est plus là.
Tiqué par ce jeu. On prend tout de suite un auditeur. Où est Tito ? Où est Tito ? Les auditeurs appellent. Allô ?
Oui, allô ?
Bonjour monsieur, vous appelez d'où ?
Bonjour, j'appelle de Reims.
Reims, très bien. Et Reims, à votre avis, où est Tito dans le studio, monsieur ?
Je dirais derrière le canapé.
Alors on va vérifier, François ?
Non. Attends. Non.
Non, est-ce que monsieur, une deuxième possibilité ?
Sous la table.
Attendez. Incroyable moment de radio. Je vous rappelle ce qui vient de se passer. Le chroniqueur musicien Tito avait disparu. En fait, il s'était caché dans le studio. Force à nous d'essayer de le trouver grâce à l'aide d'un auditeur, François, appelons un chat.
Oui.
L'auditeur qui avait du nez, qui peut-être ou de l'oreille, a tout de suite
ou qui était renseigné.
Ah. Peut-être que Tito avait trop parlé hier soir, dit demain je vais me cacher en studio sous la table.
Un peu bourré dans un bistrot.
Ouais. Hey, demain tu vas voir.
Je connais déjà, il a la cachette que je prendrai.
Oui, mais si Tito était donc à Reims hier et il se serait arrivé à Paris ce matin après avoir trop parlé dans un bistrot de Reims. Ça tient pas votre truc à tout de suite.
Mignon.
Maintenant mon mec c'est toi.
Voilà. Alka, Philippe, Catherine. Mon mec, c'est toi, c'est bien. Atmen, je sens que vous avez des pudeurs de gazelle ce matin.
Oui, un petit peu.
Vous lisez le journal avec beaucoup de timidité. C'est-à-dire, vous croyez, vous dites, c'est tout un monde qui vous impressionne, des gens qui sont dans le journal.
Oui, parce qu'il y a le retour d'Ingrid Chauvin.
Voilà, merci, le journal de Thierry Paret.
Au moins 11 morts et 45 blessés, c'est le bilan de l'attaque dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie hier. Un kamikaze a fait exploser une bombe. C'est un suspect qui serait âgé de 23 ans, originaire d'Asie centrale, qui serait lié à l'islam radical. Rien n'est confirmé de tout cela, mais voilà, c'est l'info qui circule en Russie en ce moment. Les explosifs étaient dissimulés dans un sac à dos. Un temps soupçonné, un autre homme repéré par des images de vidéosurveillance s'est présenté aux autorités pour leur expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Vladimir Poutine s'est rendu sur les lieux de l'attentat pour y déposer des fleurs. Dans la foulée de cet attentat, la France a décidé de renforcer la sécurité dans les transports publics en Île-de-France avec des effectifs de gendarmerie supplémentaires. Avant de partir, Barack Obama avait notamment promulgué une loi pour obliger les fournisseurs Internet à obtenir l'accord de leurs clients avant d'utiliser les données de géolocalisation financière, de santé ou toute information issue de leur historique en ligne. Cette loi devait entrer en vigueur prochainement, devait parce que Donald Trump vient lui de l'abroger. La Guyane s'apprête à vivre une nouvelle journée de grève générale. Les négociations avec le gouvernement ont été une nouvelle fois rompues hier. Les Guyanais réclament toujours un plan d'urgence de 2,5 milliards d'euros, une revendication jugée irréaliste par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Ce soir aura donc lieu un débat télévisé avec les 11 candidats à la présidentielle. C'est une initiative inédite dans l'histoire de la République. Trois grands thèmes au programme. ou trois questions si vous préférez. Comment créer des emplois? Comment protéger les Français? Comment mettre en œuvre votre modèle social? Voilà, chaque candidat disposera d'un gros quart d'heure de parole, en tout 17 minutes. L'abstention ennemie numéro 1 de la présidentielle à moins de 3 semaines du premier tour. La participation pourrait atteindre un plancher inattendu pour une élection à la magistrature suprême. Certains instituts de sondage évoquent même une abstention aux alentours de 30%, comme en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié pour le deuxième tour. L'Observatoire de la laïcité a publié un rapport, enfin c'est son rapport annuel en fait, appelant médias et élus à se détacher du culte de l'immédiateté et du clash dans un contexte de sensibilité toujours très forte autour du fait religieux en période préélectorale. C'est-à-dire, dans une note de synthèse, l'Observatoire souligne le contexte particulier de la campagne électorale, la campagne présidentielle, et surtout le contexte des attentats qui persistent et qui est fait à la fois d'inquiétude, d'émotion, mais aussi de confusion entre ce qui relève de la laïcité et ce qui relève d'autres champs, dont le radicalisme violent et le terrorisme. Et puis le coup d'envoi ce soir des quarts de finale de la Coupe de France de football. Deux matchs aujourd'hui, hein, deux demain aussi. À 18h aujourd'hui, Fréjus va recevoir Guingamp et à 21h, Monaco va recevoir Lille. Demain, Angers sera opposé à Bordeaux et à Avranches au PSG.
Pardon, moi je suis un tout petit... François, je ne sais pas contre vous, mais vous voyez... La laïcité, c'est une chose importante. Dans cette émission aussi, je ne peux plus supporter que vous arriviez en robe de bure, pieds nus le matin, que vous vous flageoliez tous les quarts d'heure comme ça, en disant j'ai péché sur un château. Vous saignez, vous en mettez partout, vous êtes là. Ce sont des pratiques que je respecte chez vous, mais ne nous imposez pas. Vous voyez ce que je veux dire,
Moi, j'ai juste envie de vous dire, ça dérange probablement M. Baird. Enfin, apparemment, ça dérange M. Baird, mais les auditeurs.
Ils sentent que vous êtes dans la fiction.
Quand il y a quelqu'un qui balance. Si vous balancez pas, l'auditeur, lui, il est tranquille avec ça.
Il y a beaucoup d'autoflagellation dans votre voix. Les gens sentent que vous voulez porter les péchés du monde.
Oh, c'est pas faux que je veux porter les péchés du monde, hein. L'agneau de Dieu, hein.
Sens bien que vous avez. Météo de Tito.
Ah oui.
Tito, attention. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que ça vous fait plaisir de transmettre les chiffres météorologiques?
C'est un régal.
Voilà, voyez, François.
Aujourd'hui, c'est la Sainte Isidore. Isidorus, Isidora et Isadora. Isidora. Alors, on va rester comme c'est la semaine des départements d'outre-mer. On rendra toujours ce petit hommage à quelques petits départements de là-bas. La rotation. C'est l'hymen. La 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 la. C'est l'hymen. Aujourd'hui, soleil partout, nuages toute la France, dans le Cotentin, il pleut, quelle est douce notre France. Les températures seront à Agen de 7 à 18, Avignon de 11 à 21, Bordeaux de 7 à 18, Clermont-Ferrand de 7 à 16, en Guadeloupe de 23 à 29, à La Réunion de 13 à 19, à Limoges de 6 à 17, Montpellier de 12 à 23, à Poitiers de 7 à 16, à Cayenne de 23 à 31, à Mayotte de 26 à 28, à Pau de 7 à 17 et à Paris, méfiez-vous de 8 à 18.
C'est l'hymen.
La 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 la. C'est l'hymen.
Très très bel hommage évidemment au duo d'hommes-tom qui sont vraiment enchantés. C'est surtout un hommage à David Martial qui était l'interprète de Simone et qui était habillé en marin. Pourquoi David Martial s'habillait en yachtman?
Toujours prêt à partir, je pense.
C'est ça, c'est une invitation.
Il avait
David
très belle
Martial,
casquette et il dansait avec un perroquet.
Il avait un côté un peu Eddie Barclay Caraïbe, David Martial. On part dans les rues doux avec Tito, avec Jacques Souvent. Moi, je les embrouille tous.
Bonjour, on est au kiosque à journaux, nous, à Croix-de-Chavaux, à Montreuil.
Ah oui, souvent vous partiez de là, oui.
Voilà, j'aime bien cette petite humeur du monde. Et là on parlait du prénom de ce monsieur qui garde le kiosque, qui s'appelle Philobert, vous m'avez dit. C'est la contraction entre Philibert et Flaubert. Et
voilà, Gustave Flaubert et de Philobert.
C'est votre papa qui est...
Oh oui, c'est mon père qui est parti voir le secrétaire d'État civil. En voulant dire Flaubert, l'écriture a donné Philobert, alors c'est resté. Voilà.
Vous voulez vous appeler Flaubert ?
Oui, exactement.
Ah, c'est très beau de donner comme prénom le nom d'un grand écrivain français, oui. Vous auriez préféré... Vous pensez qu'on a un destin suivant son prénom ?
Un peu, je crois, puisque je suis un peu dans la lignée.
Oui, vous êtes le Flaubert de la Croix-Chavaux.
Exactement.
Et puis de votre poste de kiosque à journée, c'est un poste d'observation de la société privilégiée ?
Pas tellement, il y a un peu de tout ici parce
bien
que
essayé,
Montreuil, hein. Vous savez, c'est une ville de près de 100 000 habitants, d'où c'est un peu cosmopolite.
Il paraît que c'est la première ville du Mali hors Mali.
Effectivement, c'est ce qu'on dit, mais c'est vraiment ça, oui.
Alors, il y a beaucoup de gens de Kaï, non, cette région du Mali, qu'on appelle, qui est un peu la cuvette de Mali, où il fait très chaud.
Effectivement, oui, ce sont eux qui sont beaucoup plus en majorité.
Vous en avez des originaires de Kaï comme clients au kiosque à journaux?
J'en ai plein, et même des amis.
Qu'est-ce qu'ils achètent? Alors, ils viennent discuter ou ils...
Non, ils achètent beaucoup plus des journaux de courses. Ils sont sauvés dans la merde.
Est-ce que les courses au Mali sont tenues par les Corses? Qui tient le PMU, les courses au Mali?
Toute l'Afrique, c'est tenue par les Corses.
Les Corses.
Oui, il n'y a que...
Alors, vous avez des gens qui jouent? Vous avez des gens qui gagnent ou c'est rarement ceux qui jouent qui gagnent?
C'est rarement ceux qui jouent qui gagnent. Effectivement...
On était en train de parler de débat avec Philomère, et Philomère, on comprenait pas pourquoi les débats durent pas 4 jours, 5 jours.
Ah, c'est génial ça, oui, ça serait formidable.
Oui, c'est terrible, moi je comprends pas. Alors en général, tout ce qui est mauvais, on nous le présente pendant des jours et des jours quand c'est une catastrophe. Mais quand c'est un débat comme celui de la présidentielle qui se passe tous les 5 ans, au lieu de le faire en plusieurs jours et en plusieurs heures, et on nous en fait 15 minutes, c'est n'importe quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un débat finalement sans journaliste? On assoit les candidats et ils discutent, on peut même faire un feu au milieu jusqu'à épuisement.
Mais c'est ce qu'il faut faire en principe, c'est la seule façon de faire les choses naturellement.
C'est formidable.
Tout est truffé.
Vous voulez pas venir là, si vous êtes à Montreuil avec Jacques Souvent et nous rejoindre tout à l'heure?
Mais je suis à mon poste de travail, je peux pas bouger.
Mais Jacques Souvent, il peut vous remplacer. Vous mettez Jacques Souvent pendant une heure et vous venez.
C'est pas possible parce que je suis irremplaçable. C'est... Vous pouvez demander à tout le quartier.
Ça se sent, cher monsieur. Pour nous aussi. Ah, bonne journée, monsieur Philomène.
Merci à vous de
Salut,
même.
Salut, merci beaucoup.
Merci.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Oui, il fait très chaud. Thomas Baumgartner, nous sommes maintenant avec Alexandre Devaux qui est arrivé superbe en marin, comme ça. Oui, c'est ma question.
Voilà.
Vous avez une sorte de pull de marin, une casquette, vous êtes commissaire d'exposition. Est-ce que votre idée vestimentaire a un rapport avec votre métier? Là, vous organisez une grande exposition sur Topor. Est-ce que vous vous habillez suivant les expositions que vous présentez?
Non, j'ai toujours la même tenue, le même pull, les mêmes dessous tous les jours.
C'est l'amour de la mer chez vous? Pas du tout. C'est
l'amour de la scène.
D'accord, on est sur scène, dès qu'on se lève le matin, c'est ça qui nous porte, qui nous empêche de nous effondrer. Roland Topor, mort il y a 20 ans maintenant, qui était-il? Pourquoi faut-il l'honorer avec Thomas Baumgartner?
Oui, c'était il y a 20 ans, d'un seul coup, un dessinateur disparaissait, mais aussi un dramaturge, un nouvelliste, un scénariste, un peintre, un illustrateur, un homme de médias, un inquiet, un fêtard, un homme de la nuit, un homme qui parlait, un homme qui riait. Tout cela disparaissait d'un seul coup, c'était pas tous ces gens-là dans un hypothétique accident de car où ils étaient tous rassemblés, c'était un seul et même homme. Mais effectivement, la Bibliothèque nationale de France propose une exposition depuis mardi dernier. Ça dure jusqu'au 16 juillet, Le Monde selon Topor. Et donc effectivement, Alexandre Devaux est avec nous, co-commissaire de l'exposition, ainsi que Nicolas Topor, le fils de Roland, qui est au téléphone avec nous. Donc bonjour Alexandre, bonjour Nicolas Topor. Vous êtes là avec nous? Non, peut-être pas encore. Mais ce sera peut-être en cours de la conversation. Mais justement, Alexandre Devaux, co-commissaire de l'exposition avec Céline Chicha-Castex.
En tout cas, vous êtes formidable parce que vous êtes avec nous, non, puis vous enchaînez, ça ne vous perturbe pas du tout.
Mais j'ai confiance en la technologie. Ce qui est assez épatant pour le coup, effectivement, dans cette exposition, c'est que vous rassemblez tous ces topors-là. C'est-à-dire qu'il y a toutes les époques, tous les genres et toutes les directions qu'il a prises, qui ne devaient pas être simples, parce que c'était un homme qui menait finalement presque plusieurs œuvres de front.
Oui, en fait, c'est la même œuvre, mais c'est pas tous ces topors-là. Il y a un topor, il est multiple, et c'est un artiste qui s'opposait à la fonction unique des êtres et des objets. Et donc, son idée, c'était de déployer comme ça tout un tas d'activités, sachant que l'une est récréative de l'autre. Il n'aimait pas l'enfermement, donc rester à dessiner tout seul sur sa table pendant des heures et des heures, il pouvait le faire, mais après il aimait bien passer à une autre activité, des activités solitaires aux activités de groupe. Et puis en même temps, je pense qu'il voulait tout, à la fois la popularité et la reconnaissance artistique.
Alors beaucoup de gens, on le connaît sans le connaître. Enfin, si on a vu quand on était enfant Téléchat, par exemple, il a fait donc ses émissions pour les enfants. C'était aussi, il a fait beaucoup de dessins qui ont été repris comme couverture d'Arakiri. Il a fait un film sur le Marquis de Sade. Enfin, c'est vrai que parfois, même si on ne le connaît pas, on a vu du Topor, on en a entendu, on en a lu aussi. C'était un génie des aphorismes. Il y a Les Mémoires d'un vieux con, qui est un livre absolument formidable. Quels sont ces autres travaux qui ont marqué ?
La Planète Sauvage.
Qui est un film d'animation ?
Oui, un film d'animation qui est sorti en 73, qu'il a commencé en 66, après en avoir fait un court-métrage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de...
François, il a participé à Merci Bernard ou
Merci Bernard et à Palace, oui.
Et à Palace, c'est un des co-auteurs. Oui,
oui, un gros co-auteur. Ouais.
Voilà, quel est ce mouvement panique aussi qu'il avait lancé avec Jodorowsky, avec tout ça, avec Rib...
Rabal.
Avec Arabal.
Mouvement Panique, c'était un pied de nez au groupe surréaliste vieillissant. Lui, il avait été fan lycéen de toute la culture surréaliste. Et puis, un jour, après avoir rencontré Arabal, qui l'amène à la promenade de Vénus où se retrouvaient les surréalistes, ce dont rêvait n'importe quel artiste de 20 ans à l'époque, Topor se pointe. Et puis, au bout de 5 minutes, ne supportant pas le côté...
officiel, un peu le sérieux tout à coup, la déconne ou le...
Voilà, Breton avait tendance à, je perds le mot, mais enfin à tenser sur tout un tas de sujets.
Comme une religion, Topor n'a pas supporté. Un grand prêtre, oui.
Voilà, il pontifiait en fait, c'est
ça. Il pontifiait, et Topor au bout de 5 minutes a quitté les lieux en prétextant qu'il avait besoin d'aller se moucher. Et puis après, il a convaincu ses potes qu'il fallait faire un truc, un mouvement sans dogmatisme.
C'est important d'aller se moucher. Enfin, si on en ressent, bien sûr, le besoin, il ne faut pas se forcer.
Voilà. Effectivement, l'esprit de sérieux, c'est quelque chose qui est totalement absent de cette exposition. Et en même temps, comme vous dites, il y a eu un besoin de reconnaissance, ou en tout cas d'aller autant que possible à fond dans les différentes directions. Il y a d'ailleurs un espace qui est... peut-être plus inattendu que les autres dans cette exposition, c'est l'espace art contemporain. C'est quelqu'un, Roland Topor, qui a été aux côtés de pas mal d'artistes contemporains et qui avait sa place à leur côté, et nouveaux réalistes en particulier.
Oui, oui, bah, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui relevait de l'art contemporain. Il était fan de Dada, d'Alfred Jarry et donc des héritiers de Duchamp. Et... après, étant dessinateur et écrivain, enfin, surtout dessinateur parce qu'il était des arts plastiques, le dessin, à l'époque comme aujourd'hui, souffrait d'un problème de reconnaissance par les institutions de l'art et du marché. Et du coup, il souffrait un peu peut-être de ça, d'un manque de reconnaissance. Et Spoerry, qu'il a rencontré en 62, s'étonnait aussi que les musées ne donnent pas de place aux dessinateurs. Sauf quand ils étaient morts depuis 150 ans ou 100 ans. Et Topor, finalement, s'est quand même assez bien débrouillé, puisqu'il a eu des rétrospectives à partir de 1975 dans les grands musées internationaux, en Hollande, la première. Et puis ça a suivi après. Et c'est un type qui, dès le départ, était contre l'idée de hiérarchie. Donc il faisait des expositions à partir de 1960 dans lesquelles il mettait et des dessins de presse, et ses dessins d'illustration, et des dessins un peu plus grand format qu'il faisait spécialement pour le mur ou sans commande. Quoi. Mais...
et dans votre expo là, à la BNF, il y a des enregistrements, il y a des films, parce que c'est aussi une présence physique délirante, Topor. C'était un rire très inquiétant, comme ça. Il partait dans des cascades de rire qui faisaient un peu peur, avec son cigare, avec cet œil très intense, globule assez sarcastique, avec une sorte de méchanceté joyeuse. Comme ça, on le voit.
Oui, on le voit. Alors ça, c'est souvent sa présence médiatique qui est comme ça.
Ah, moi, je l'ai vu au bistrot, il était comme ça. Hein. il commandait souvent du Bechdel, c'était son Bordeaux préféré. Et puis, c'était assez volcanique. Comme
mais
ça.
Je pense que le bistrot, c'était aussi pour lui une surface médiatique.
Oui, mais le lit aussi, tout aimé à partir du moment où on sort du ventre de notre mère, on est sur scène, cher Alexandre. Alors, c'est où la BNF ? C'est l'ancienne ou la nouvelle ?
C'est la nouvelle.
C'est rue de Richelieu, c'est beau, cette nouvelle ?
Non, c'est pas rue de Richelieu,
c'est les livres ouverts, là, ouais. Cette grande réussite mitterrandienne. Alors, donc on y va
dès aujourd'hui. Ça a commencé mardi dernier, ça dure jusqu'au mois de juillet. Juste un petit mot, parce que François Rollin, vous avez travaillé avec Roland Topor.
Oui,
c'est
oui.
Comment de travailler avec lui sur l'écriture, justement, notamment. Merci bien.
Bon, c'est très difficile d'en parler parce que c'était un être absolument étourdissant. Donc, c'est le premier génie que j'ai longtemps et intensément fréquenté. Mais c'était incroyable. C'était un peu une autre planète. Je me rappelle chacune des heures que j'ai passées avec lui. On dirait que le temps était élastique avec lui parce que tout d'un coup, il se passait mille choses. Donc, juste la fois où on était mangé au restaurant portugais, ben, je peux vous faire un bouquin là-dessus parce qu'il a dit tellement de choses. Il a fait des petits croquis, il a fait des blagues, il avait toujours des idées extravagantes. J'étais triste tout à l'heure parce que je me rappelais qu'en 97, juste un peu avant sa mort, je faisais avec lui des petites pastilles sur une chaîne qui s'appelait Paris Première à l'époque. Et ça s'appelait Une Minute pour le Dire. Alors lui, il a fait des petites pastilles absolument admirables. Et là, il avait fait une petite pastille pour dire qu'on était tous dans l'impatience de l'an 2000 et que c'était absurde. À la fin, il fallait maintenant sauter 98 et 99, dont il sentait bien que ça ne servirait pas à grand-chose, pour aller directement en 2000. Et puis sur ces entrefaites, il a cassé sa pipe.
Vivement 2020. Le Monde selon Topper, c'est à la BNF, sur les quais.
Exactement,
Paris.
À Paris, dans le 13e.
Merci Alexandre Devaux et merci à Nicolas Topper.
Merci à vous.
Au téléphone.
Tant pis.
Salut Nicolas.
C'est le silence qui suit encore du Topper. Salut.
Édouard Baer.
Donc là, Octave, c'est la version parole de Jacques Prévert, c'est en folio. Il y a une photo de lui, elle est pas mal, la photo de Prévert, non ?
Ouais.
Il pense à quoi sur cette photo, tu penses ?
Pourquoi on prend en photo ou alors, je sais pas.
Ah oui, il a l'air de se retourner vers le photographe et dire, bah dis donc. Bah dis donc toi, et toi quand on te prend en photo, tu aimes bien qu'on te prenne en photo toi ou pas ?
Bah ça dépend des fois.
C'est-à-dire ?
Bah des fois j'ai un peu envie qu'on me laisse tranquille.
C'est quoi ? C'est plutôt tes parents qui te prennent en photo ?
Oui.
Ils font avec leur portable ou avec ils ont des fous de, ou avec des vrais appareils ?
Non, avec des portables.
Et t'aimes bien te regarder toi en photo ou t'aimes bien regarder ta tête ?
Non.
Pas trop.
Non, je préfère regarder les photos des autres.
Les têtes des autres. Et les photos de dos, t'aimes bien quand on voit que le dos ?
Non.
Et les pieds ? Non.
Non.
Qu'est-ce que tu... Et des photos d'animaux, des photos de paysages ?
Oui, j'adore ça.
Quels animaux t'aimes bien ?
Bah, tous les félins.
Ah oui ?
Oui.
Et tu regardes des documentaires où ils bouffent les autres ?
Sympa.
Lesquels t'aimes ? Quoi ? En documentaire ou en photo ?
Un peu des deux.
Voilà, si vous avez des félins, vous les envoyez à Octave. Octave, un petit texte de Prévert qu'on va travailler ensemble, c'est « Le concert n'a pas été réussi ». On y va.
Compagnon de mauvais jour, je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute. Tous les tours, tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter.
Alors on reprend Octave. Donc tu parles, tu leur parles, tu vois. Donc tu t'adresses à eux, tu vois. C'est comme si et les potes, compagnon de mauvais jour. Donc tu peux bien prendre le temps et continue sur le même ton qu'au début, tu vois. On recommence. Tu vois, si tu dis à un groupe de potes, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite, tu vois. Alors parle-leur à eux, vas-y. Prends le temps, hein. Prends bien le temps, vas-y.
Compagnon de mauvais jour, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est de ma faute, tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît.
Alors, le caniche est une musique qui plaît, on est obligé de s'arrêter sur cette conversation-là. Octave, qu'est-ce qu'a voulu dire Jacques Prévert quand tu dis que le caniche est une musique qui plaît ? Est-ce que tu as déjà joué du caniche ?
Non.
Est-ce qu'à ton avis, on en joue comment, du caniche ?
Je ne sais pas.
Tu penses que c'est comme un piano, on appuie dessus et ça fait des sons ? C'est des questions très bizarres de poser. Mais si tu apprends un poème, tu dois avoir une idée sur chacune des phrases, sinon tu vas te faire piéger. Non ?
Bah, je ne sais pas.
Tu joues d'un instrument, toi, ou pas ?
Oui.
Quoi ?
La guitare.
Ah bon ? La guitare comment ?
Bah, de la guitare.
La guitare sèche, de la guitare classique
Une guitare classique.
Alors, on va écouter, là, un peu de pub, et on va voir si avec Tito, tu peux faire un peu de guitare tout à l'heure pour la météo. C'est de la pub Armel ou c'est de la musique ?
Non, c'est Jean Constantin.
Ah, Jean Constantin, c'est ouais. Très Nova, à tout de suite. Tu vas voir, on a une guitare, là. C'est pas la meilleure de Jean Constantin, c'est Jean Croc qui nous l'a mis de côté ?
Oui, c'est ça.
Là, pendant ce temps-là, dans le fond du studio, Octave... Octave est en train de jouer de la guitare.
C'est Nirvana, ça.
Non, c'est Octave.
Ah, pardon.
Sur la guitare de Tito. Voilà, ils sont au fond du studio, ça joue. Hello, 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 dangerous area now, and it's a use of a stupid and dangerous area.
Deus and Leto and Albano and Mosquito, Mary Beano.
J'ai compris les mots, bravo Octave. T'as dit stupide and dangerous, tu parlais de quoi?
Bah...
Qu'est-ce qui est stupide et dangereux? Tu regardais Atmen en même temps.
Je te veux dans ma team.
Je te veux dans ma team, Mick Atmen. Très bien. Qu'est-ce que vous me disiez sur la photocopieuse, Atmen?
Oui, toujours pas de photocopie à Nova, hein, il faut le dire. Hein, depuis deux jours, grève.
Dans quelles conditions?
Il se passe pas que des trucs en Guyane. La photocopie est bloquée.
François, vous qui avez été chroniqueur à Radio Courtoisie, et ça vous choque beaucoup ce truc à Nova, il n'y a pas de photocopie. Alors, vous aviez des gros moyens à Radio Courtoisie.
Oui, la Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel. De la francophonie, c'est ça?
Oui, avec Patrick Buisson, tous vos amis là-bas, vous disiez, il y en avait des moyens.
Oui, je participais à l'émission Langue française, joyau de notre patrimoine.
Vous étiez aussi Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon? Une émission culinaire un peu particulière. Le journal de Thierry Paret.
Il était aux alentours de 14h40 hier lorsqu'une explosion a retenti dans une rame du métro de Saint-Pétersbourg en Russie sur une ligne particulièrement fréquentée. Bilan provisoire, 11 morts et près de 50 blessés. Les autorités privilégient la piste d'un attentat suicide. Un autre engin explosif a aussi été découvert dans une autre station de métro. Il a été, lui, neutralisé. L'Observatoire de la laïcité publie ce mardi son rapport annuel. Il appelle médias et élus à se détacher du culte de l'immédiateté et du clash dans un contexte de sensibilité très fort. Toujours très forte autour du fait religieux. L'Observatoire souligne le contexte particulier de la présidentielle et évoque la confusion entre ce qui relève de la laïcité et ce qui relève d'autres champs tels le radicalisme violent ou encore le terrorisme. 17 minutes, c'est le temps dont disposera chaque candidat à la présidentielle ce soir à la télévision. Un faible temps de parole qui est dû évidemment au grand nombre de candidats. Ils seront 11 en plateau, 11 à répondre à 3 thèmes, 3 questions. Comment créer des emplois? Comment protéger les Français? Comment mettre en œuvre votre politique social? Il y aura aussi du temps de parole pour les débats, mais je crois que c'est inclus dans les 17 minutes. Silencieusement, elle et
vous
il...
Vous croyez, vous le savez.
Je sais, je suis sûr.
Ah,
même.
Voilà.
Elle et il tourneront aujourd'hui, une fois encore, autour du palais de justice de Dunkerque, en portant haut les portraits de leurs morts empoisonnés. Ce matin, les veuves, veufs et victimes de l'amiante vont organiser leur 23e marche en 12 ans pour exiger que les responsables du décès de des leurs répondent d'homicide et blessures involontaires devant la justice pénale. La Guyane s'apprête à vivre une nouvelle journée de grève générale. Les négociations avec le gouvernement ont été une nouvelle fois rompues hier. Les Guyanais réclament toujours un plan d'urgence de 2,5 milliards d'euros, une revendication jugée irréaliste par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Lénine Moreno, 51,16%, Guillermo Lasso, 48,84%. C'est le résultat de la présidentielle en Équateur, remportée donc par le candidat socialiste. Problème, le vaincu refuse le résultat du scrutin. Guillermo Lasso évoque de nombreuses preuves d'irrégularité dans le processus électoral. Un juge américain rejette la demande du cinéaste Roman Polanski de pouvoir revenir aux États-Unis sans être menacé d'emprisonnement 4 décennies après avoir fui le pays à la suite du viol d'une mineure. Un nouveau billet de 50 euros est mis en circulation aujourd'hui pour lutter contre les contrefaçons. Et puis après avoir perdu la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG samedi dernier, Monaco a rendez-vous face à Lille ce soir en quart de finale de la Coupe de France. C'est Monaco qui reçoit, coup d'envoi 21h, auparavant à 18h. Fréjus va recevoir Guingamp.
Thierry, j'avais une question pour Thierry, moi, très importante. Vous ne parlez pas du coup de théâtre qui va se produire ce soir dans le débat, c'est parce que vous n'êtes pas au courant ou parce que vous ne souhaitez pas en parler?
Si, bah en fait, j'ai déjà toutes les infos.
Vous le savez?
Évidemment.
Que oui, bah, je peux le dire aux autres, Benoît Hamon va annoncer son ralliement à Mélenchon.
Voilà.
Paf, en plein milieu du débat. Dans le premier quart d'heure, il a l'aval des sympathisants socialistes, donc il va annoncer il jette l'éponge et il se rallie à Mélenchon.
On va voir s'ils en parlent dans l'émission de Radio Courtoisie qui passe maintenant. C'était mieux avant, tout fout le camp, une émission de Radio Courtoisie avec Radio Nova. Bernard de Saint-Franca, bonjour. Stanislas Gutier, bonjour Stanislas. Stanislas, vous apportez des documents sidérants de véracité qui attestent d'une façon absolument inéluctable la décadence non seulement de notre pays, mais de l'universalité et de la nationalité aussi. C'est-à-dire le singulier et le pluriel, tout fout le camp, tout s'effondre, ça part de Guingois. J'ai là les photos, je montre à nos auditeurs. Et là, on voit notre pays, là, une photo il y a 60 ans, et c'est remarquable. Et là, cette photo que j'ai prise hier, alors on ne comprend rien. Alors là, je ne vois personne, les gens boivent du Coca-Cola, les gens pratiquent des religions ou quoi ou
lequel je ne comprends rien, et cette tranche de jambon abandonnée au coin d'un comptoir qui ne demande qu'à être mangée. Non, à vous. Non, vous n'avez rien à dire. Mais le problème, c'est que je ne peux pas aller plus loin dans les aigus, parce que sinon, on arrive dans le domaine de l'ultrason. Allez, on part avec dans les rues de Jacques Parent. Dans les rues de Jacques Parent.
Jacques Souvent.
Dis donc.
Jacques Souvent.
Je suis avenue de Paris, je remonte sur Paris.
Jacques Parent.
Et j'ai rencontré par hasard. Alors, on vient juste de se rencontrer. Voilà quelque chose. Je ne sais pas comment vous appelez.
Kenny.
C'est Kenny. Et Kenny, je vous dérange là.
Non, ça va.
Ça va.
Ah, attention, il y a le gars qui passe avec les jets d'eau là.
Ouais, bah ça va. C'est pas un drame. Il peut nettoyer un peu de temps en temps, je sais pas. Kenny, voilà, ça va
monsieur. Moi, ça va très bien, merci.
Bon, et demandez-moi si ça va.
Ça va.
Oui, merci, c'est gentil, Kenny. Et la famille, ça va?
Très bien.
Qui dans votre famille? Qui vous avez dans cette famille?
Pourquoi vous me demandez ça?
Ben parce que c'est important, Kenny, je crois que c'est important le matin, quand on se lève, de demander comment ça va, comment va la famille. Je pensais que c'était plus poli. Vous trouvez que c'est pas poli de ma part?
Si.
Alors
C'est la stupeur du micro.
Comment va la famille?
Là, c'est bon, on est au passage piéton.
Ouais.
Et les amis?
Comment va la famille?
Bah, j'espère qu'ils vont bien.
Bon, ils sont...
Vous appelez votre fils, là?
Ouais.
Vous lui avez dit quoi? C'était pour checker.
Non, c'est pour son repas, de l'enlever dans le frigo, c'est tout.
C'est votre fils ou votre fille? J'ai pas entendu, Kenny.
Mon fils.
Et votre, il va, donc il va se le, il va, vous lui avez laissé un repas dans le frigo?
Ouais, c'est ça.
C'est quoi? Vous lui avez laissé quoi?
Des pâtes et du poulet.
Mais des pâtes qui sont, vous avez déjà cuites? Mais attendez, il faut être précis, Kenny, parce que moi je n'ai pas compris. Pourquoi les pâtes sont...
Je vais travailler. Bon. Vraiment, là,
mais ça va être au micro-ondes? Il va les passer au micro-ondes, Kenny?
C'est déjà cuit, c'est déjà prêt.
Mais ça va être froid, si vous voulez. Je comprends pas, Kenny. Il va pas manger des pâtes à 8 heures. Mais vous allez bosser ou ne partez pas? Je veux des réponses.
Elle a quitté le masque.
Bon, vous lui faites un bisou à Kenny. Ah bon. Kenny,
merci.
Belle journée. Toutes ces questions.
C'est très loin encore.
Toutes ces questions sans réponse. Pourquoi Kenny a-t-elle laissé des pâtes et du poulet à 8h07 pour son fils? Ces pâtes et ce poulet seront-ils mangés en guise de petit déjeuner ou attendront-ils à l'air libre d'être mangés froid à midi? Ou y aura-t-il réchauffement par le biais évidemment d'un four micro-ondes ou simplement, François, une dégustation à froid? Peut-être les pâtes froides, la salade de pâtes, salade de nouilles qui a fait la joie de beaucoup d'enfants.
Et si nous conservions le mystère?
Bien
Edouard,
sûr, bien sûr.
Pourquoi pas?
Les questions peuvent rester ouvertes, toutes ces questions sans réponse. Avez-vous des réponses sans questions que vous voulez nous asséner ce matin?
Oui, c'est le pot d'échappement.
La réponse était le pot d'échappement, une question qu'on ne s'est pas encore posée. D'autres réponses?
C'est la seule pour ce matin.
Voilà, moi j'ai aussi la réponse bleue et la réponse 34. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Il y a quelques instants, nous donnions des réponses. Nous avions répondu pot d'échappement bleu et 34. Avez-vous des questions qui nous permettent de rendre ces réponses non obsolètes? Allô?
Oui, allô?
Bonjour mademoiselle, quelles questions avez-vous pour nous?
Alors, pour le pot d'échappement, je pensais à la question « Par où sort la fumée des voitures ?»
Oui, ne dites pas la réponse, nous vous l'apporterons nous-mêmes, hein, mademoiselle.
D'accord,
appelez d'où?
De Nantes.
D'accord, vous n'êtes pas du tout Charlène qui est partie dans le bureau à côté?
Rien à voir.
Voilà, non, parce que vous savez...
Faut
pas nous prendre pour des billes non
voilà.
Plus.
C'est pas... Non, parce que... Donc ça n'a rien à voir. Ensuite, vous avez une autre question à nous poser?
Comment on fait du vert quand on a déjà du jaune?
Bleu, c'était... On rajoute du bleu. C'était
ouais,
donc, François, c'était...
Oui,
donc,
c'est ça.
Très bien, c'était la deuxième réponse qu'on m'a apportée. Et la troisième question?
Si je rajoute... Un chiffre au numéro qu'on dit chez le médecin, ça fait combien?
On dit souvent, dites 33 chez le médecin, donc si on rajoute un, ça fait 34. C'est formidable.
Bravo, bravo, c'est bien débrouillé.
C'est ce qu'on appelle un moment de radio. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on ne voit rien et que ça sera vite oublié. On pourra tous dire qu'on n'y était pas, François, vous voyez?
Oui, et puis qu'il y a d'autres radios.
Il y a d'autres radios.
Je tiens à rassurer ceux qui ont souffert avec nous ce matin.
Non, c'est ludique, c'est un petit
c'était
plus.
Très bien,
vous avez trouvé ça joyeux.
Oui, je me suis bien marré. Je me suis pas fait chier pour le moment. Bon, tout va bien.
Il faut dire qu'au contrairement aux éditeurs, vous êtes payés.
Oui, voilà.
Donc à partir de là, vous êtes beaucoup plus en accord avec ce qui se passe en studio. Mais c'est vrai, François a raison, c'est pas toujours réussi et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres radios, on peut tout à fait passer. Est-ce que vous êtes prêt pour l'animal du mardi?
Oui.
Un petit générique?
Fin prêt, un générique volontiers.
Qu'est-ce qu'on mettrait, Armel?
L'animal du mardi.
L'animal du mardi.
Ah oui.
Bon alors déjà, je voudrais revenir rapidement sur l'animal de mardi dernier, la loutre, parce que de nombreux auditeurs se sont posés des questions. Je dois donc préciser qu'il s'agissait d'illustrer l'expression « passer loutre ». C'est-à-dire que vous m'aviez interdit, pour cause de campagne présidentielle, de parler de la loutre, et moi, je n'ai pas tenu compte de votre interdit, je suis donc passé loutre. Voilà.
Oui.
Hein, c'est clair.
Merci.
Alors, avec l'animal de ce matin, le pingouin, je me heurte à une difficulté d'un autre ordre parce que ma véritable motivation, c'est d'exhorter tout le monde à aller voir L'envol du pingouin, le spectacle culte de Jean-Jacques Vanier, un spectacle profond et drôle dont j'ai l'avantage d'être le co-auteur et le metteur en scène.
Ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça que vous
êtes encore. Non, alors ce sera à l'Olympia à Paris, une représentation exceptionnelle le 6 juin prochain, date anniversaire du débarquement en Normandie.
Pas du tout pour ça que vous...
Alors, mais c'est-à-dire, voilà, mon but c'est de remplir la salle pour cette soirée, mais je voudrais pas que ça se voit, ça fera un peu copinage.
Ne vous inquiétez pas.
Donc il faut que j'arrive à parler un petit peu du pingouin quand même, mais pas trop longtemps, vu que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour parler de la soirée du 6 juin à l'Olympia.
Oui, c'est vrai.
Alors par exemple, je prends un témoin, si je dis « le pingouin est un oiseau de la famille des Alcidés », est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fait la blague? Ou bien est-ce que la ruse est cousue de fil blanc?
Ça remplit la salle en tout cas. Il y a une deuxième information sur le pingouin?
Non, c'est-à-dire le pingouin s'envole le 6 juin à l'Olympia.
Vous pourriez aussi dire, c'est bien rigolo un pingouin, vous voyez. Non,
j'y avais jamais pensé.
Voilà.
C'est vrai que c'est bien rigolo.
À l'Olympia le 6 janvier.
Ouais, le 6 juin.
Dès qu'on voit un pingouin, rire.
Paf.
Paf, merci. Je vous ai vu là pendant le morceau, François, vous avez mordu dans un sandwich, j'ai l'impression que vos gencives c'est vraiment du béton armé. Hein?
Bah oui, parce que j'ai, je ne peux pas le dire quand même, mon secret de dentifrice.
Si.
C'est le parodontal forci gencive.
Ah oui, mais il est en tyrodéposition là, parce que je vois vous, au niveau calcaire, vous êtes bien, c'est formidable.
Mais hein? je pouvais plus du tout manger de sandwich au jambon, et puis là, hop, maintenant, grâce à pas, je suis en dentifrice.
Si Yves sont là, la molaire est vaillante, la canine est futée.
Ah, j'ai renoué avec un certain plaisir de vivre le matin.
Parodontal, quadri, les quatre choses. Voici Marie-Missé. Dis donc, fini, oui. Il y a alors, pas tout le temps, il y a des moments quand même, hein. Ben alors, Baumgartner, il est, non. Il est, eh ben alors.
Oui.
Un petit peu du service. Et Marie-Missé, grâce à elle, va nous éclairer, je dirais, sur ce qu'on devrait savoir pour se lancer dans la journée. C'est sa revue de presse.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ma mignon. Oui, très bien. Minou. Pourquoi?
Bonjour. N'importe quoi.
Bon, alors.
Alors, l'homme du jour dans la presse, c'est Emmanuel Macron. Il fait à la fois la une du
Qui
Parisien. Monsieur Macron.
Ah, je vois. Oui.
Où l'on lit qu'il est désormais la cible préférée d'à peu près tous les autres candidats. Et il fait aussi la une du Monde qui, comme je vous le disais tout à l'heure en tout début d'émission, annonce une grande interview d'Emmanuel Macron et réussit à ne pas évoquer une seconde son programme au motif que les Français veulent savoir. Ils veulent savoir s'il est un héritier de Hollande. Ils veulent savoir qui il va nommer comme ministre. Qu'a-t-il fait de son argent de banquier, etc. Pendant ce temps-là, dans Le Figaro, on s'interroge avec un brin de condescendance sur l'utilité du débat sur BFM et CNews ce soir avec les petits candidats. C'est le jour de gloire des petits candidats, nous dit Le Figaro. C'est le titre suivi de phrases telles que « Il y a quelque chose d'un peu loufoque à opposer à des candidats qui ont de réelles chances de victoire, des contradicteurs en quête d'une publicité éphémère et qui parfois ne représentent qu'eux-mêmes. » Un costard gratuit, donc, pour les mini-candidats. Et puis, petit miracle, on finit par trouver des traces de programme ici et là dans la presse. C'est d'abord Libé qui s'intéresse en une aux propositions sur les animaux par les différents candidats. candidat. Car si Télérama publie une interview ce matin du metteur en scène Stanislas Nordet sur l'absence de la culture dans les programmes des candidats, en revanche, les associations et militants des droits pour les animaux ont réussi à ce que le sujet arrive dans les présidentielles, sauf pour Emmanuel Macron qui, de fait, n'a apparemment pas trop d'avis sur les animaux. On apprend ainsi que François Fillon est le seul à parler de protection des abeilles. Que les scandales dans les abattoirs ont porté le fruit, puisque Mélenchon, comme Hamon, comme Fillon, comme Dupont-Aignan, veulent surveiller de près ces 10 abattoirs. Que Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen font feu de tout bois en utilisant la défense des animaux pour taper sur certaines pratiques musulmanes. Et que Mélenchon souhaite qu'on cesse de traiter les animaux comme des choses. Alors, il y a un petit truc amusant dans cet article de Libé. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui a un prisme animal de compagnie assez marrant. Il veut interdire, par exemple, à quiconque a déjà abandonné un animal de compagnie d'en avoir un autre. Ainsi, s'il est élu, il y aura peut-être des services spéciaux pour inspecter vos canalisations à la recherche de poissons rouges abandonnés.
Ça manque de loi en ce moment.
Oui, et puis il aimerait aussi réguler un petit peu cette folle profession des babysitters de chiens. Ça, c'est une autre de ses propositions. Un autre sujet qui peu à peu fait son chemin dans la campagne, c'est les prisons. Les prisons que Le Monde met à l'honneur et qui demandent plus de prisons. D'accord, mais pourquoi faire? Car que ce soit Fillon, Macron ou Le Pen est dans une certaine mesure amont, puisque le gouvernement et le ministre de la Justice, Jacques Urvoas, a un plan tout fait pour construire 10 000 à 16 000 places de prison d'ici 2025. Et bien tous déclarent vouloir créer des places de prison supplémentaires. Il y a quand même des différences entre les candidats. Macron veut plus de places en prison pour lutter contre la surpopulation carcérale qui est importante en France. Fillon et Le Pen en veulent plus pour incarcérer plus, et ils ont de la chance parce que ça devrait se faire de toute façon, nous dit Le Monde. Un livre blanc établi par le Conseil de l'Europe estime, et la revue Sans Froid spéciale sur les alternatives à la prison le confirmait en septembre, que plus on construit des prisons, plus on met des gens dedans. C'est un mécanisme. Ce livre blanc recommandait le recours à des mesures alternatives de détention. Le débat dépasse d'ailleurs largement nos frontières. Au Royaume-Uni.
Oh bah oui, mais les voyelles, c'est pas en faire un peu ce qu'on veut.
C'est pas si important que ça. Où on met pas mal de gens en prison, plus qu'en France. Deux anciens ministres, un conservateur, l'autre travailliste, et Nick Clegg, ancien leader libéral, ont signé une grande lettre ouverte pour diminuer le recours à la prison. Un système cher et surtout inefficace, selon eux. Même aux États-Unis, on en revient. Manière de voir, le magazine du Monde Diplo d'octobre nous racontait que le champion du monde de l'incarcération, toute catégorie, en est arrivé aux mêmes conclusions. Ce système est cher et inefficace pour les victimes comme pour la communauté. Et aux Pays-Bas, rappelle Le Monde, on ne sait plus quoi faire des prisons vides depuis qu'on a mis en place des peines de prison alternatives. La récidive, c'est en effet la question de fond qui taraude Le Monde et d'autres observateurs du monde carcéral. D'accord pour construire plus de prisons, nous dit Le Monde, pourquoi pas, mais ne pourrait-on pas trouver autre chose dans le programme des candidats sur les prisons que cette construction en masse? Ce débat est en tout cas aussi dans La Croix, où le secrétaire général des gardiens de prison est opposé à la secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Elle demande, elle, un numerus clausus, un petit peu comme les études de médecine, pas plus de prisonniers, on ne dépasserait pas le numerus, pour cesser donc d'entasser les détenus en prison et forcer les magistrats à prononcer plus de peines alternative. Lui, il estime qu'un numerus clausus, c'est bafouer l'état de droit et foutre des criminels dehors. Mais il estime également qu'il faut mettre en prison des systèmes pour former, occuper les prisonniers, lutter un peu contre la récidive. Et puis, il clôt un petit peu ce débat à propos du numerus clausus en disant, heureusement, cette proposition n'a jamais eu les faveurs des autorités. Et il décrit bien là ce qui pousse les candidats par Mélenchon à ne pas étayer leurs propositions sur les prisons. La revue Sans Froid et la revue Esprit, qui consacrait un spécial prison à l'automne, en ont bien compris le mécanisme. Il est très compliqué de faire accepter à la population qu'on s'occupe correctement des détenus en prison, qu'un homme en prison puisse mieux vivre qu'un homme libre. En revanche, pour les animaux, là, il y a du monde.
Vous retombez sur vos pieds sur les animaux, Marie Misset, merci.
C'était long.
Non, comme c'est très riche et passionnant, tout à coup, il y a un moment,
c'est...
Vous avez...
c'est une candidate. Hein.
Comment?
Elle a eu 17 minutes.
Méditation au fond qui a récupéré un micro. Mais votre enthousiasme et votre envie de nous faire partager votre curiosité n'ont pas masqué une certaine réalité, Marie Misset.
Il y avait des problèmes de voyage.
Non, ça n'a rien à voir avec vous. C'est une chose générale qui est insidieuse, qui s'est installée ce matin. La France a peur.
Mardi 4 avril, François Rollin, vous vous êtes baladé avant de venir à travers la France, à travers nos contrées, nos régions, centre-ville, banlieue, campagne. Vous avez ressenti ça très fort. La France a peur ce matin, François.
La France a peur et j'ai envie de dire les Français ont peur.
Derrière le pays, vous avez senti des habitants eux-mêmes apeurés derrière les volets clos, derrière les persiennes, dans les travées du métro.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé, au-delà du phénomène, de voir l'homme, l'homme qui se cache derrière le phénomène et qui peut-être est à l'origine du phénomène et qui en est en même temps le réceptacle.
L'animalité, l'homme en tant qu'animal a peur, il a peur comme une...
Voilà, les deux, exactement, les deux choses. Et l'homme en tant qu'animal a peur et la peur en tant qu'elle est animal fait homme.
Et fait
voilà.
Peur, la peur fait peur aussi.
Bien sûr,
fait peur.
Et l'homme fait homme.
Si vous avez constaté la même chose que nous, appelez nombreux, la France a peur ce matin.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Salut les twittos, comment ça va?
Les fanzous.
Alors les fanzous, comment ça va?
Très très bien.
Bon, alors là c'est bientôt le jour. Je me suis installé au fond, est-ce que ça change quelque chose à la réception sonore de l'émission que je suis assis sur le canapé?
Non, ça change rien.
Ah zut, alors ça sert à rien?
Mais on te voit moins.
D'accord, dis donc, alors là il y a bientôt Thierry Paret, moi je l'ai entendu à 8h le journal.
En fait,
y a-t-il
il est
des
caché.
Changements
il est
ou
caché,
est-ce qu'on va le voir tout de suite ça?
Oui, hein,
à tout de suite.
Il n'y a toujours pas de revendication après l'attentat de Saint-Pétersbourg en Russie hier. Une rame de métro a donc explosé, faisant 11 morts pour une cinquantaine de blessés. Un autre engin explosif a été découvert et neutralisé dans une autre station de métro de la ville. Les autorités privilégient la piste d'un attentat suicide. 11 candidats positionnés en demi-cercle avec 220 personnes dans le public. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision qu'un débat réunit autant de candidats à la présidentielle. Chacun aura 17 minutes pour parler. Alors, il y aura trois thèmes, trois questions évoquées. Comment créer des emplois, comment protéger les Français, puis comment mettre en œuvre votre modèle social. C'est les questions qui seront posées à ces 11 candidats. L'Observatoire de la laïcité publie aujourd'hui son rapport annuel. Il appelle médias et élus à se détacher du culte de l'immédiateté et du clash dans un contexte de sensibilité toujours très forte autour du fait religieux. L'Observatoire souligne le contexte particulier de la présidentielle et évoque la confusion entre ce qui relève de la laïcité et ce qui relève d'autres champs tels le radicalisme violent ou encore le terrorisme. Silencieusement, elle et ils tourneront une fois encore autour du palais de justice de Dunkerque en portant haut les portraits de leurs morts empoisonnés. Ce matin, les veufs et victimes de l'amiante vont organiser leur 23e marche en 12 ans pour exiger que les responsables du décès de des leurs répondent d'homicides et blessures involontaires devant la justice pénale. La Guyane s'apprête à vivre une nouvelle journée de grève générale. Les négociations avec le gouvernement ont donc été une nouvelle fois rompues hier. Les Guyanais réclament un plan d'urgence de 2,5 milliards d'euros, une revendication jugée irréaliste par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Plus de 6 milliards, c'est le nombre de nouveaux billets de 50 euros qui ont été imprimés et qui vont être mis en circulation à partir d'aujourd'hui. Il est censé, ce nouveau billet, contenir de nombreux dispositifs de sécurité pour décourager les faussaires.
Et puis, qu'est-ce qu'on fait des autres alors qu'on a... Qu'est-ce qu'on fait des billets qu'on a les autres
Au fur et à mesure, ils vont être récupérés et échangés.
Alors envoyez vos billets. 50 euros à Radio Nova.
Voilà,
tous les anciens, envoyez-les, on les transmettra à qui de droit.
C'est ça. Fréjus Guingamp et Monaco Lille, voilà pour les deux premiers quarts de finale de la Coupe de France de football qui auront lieu ce soir. Angers Bordeaux et Avranches PSG, ça ce sera demain.
Guingamp.
Non, c'est Fréjus Saint-Raphaël, moi j'y tiens.
C'est vrai, t'as raison.
Pour le dire, parce qu'il y a une petite ville à côté qui a mis tout son pognon là-dedans. Si on dit que Fréjus, c'est un peu la maître. Voilà.
C'est vrai que c'est ton combat depuis toujours. Et...
Comment on apprend à jouer du piano, Tito?
Debout.
Et vous allez à la météo piano.
Il faut du temps, hein. C'est l'hymen, la 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 la. C'est l'hymen, c'est la Saint-Isidore aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il vous plaît, partout, il fera nuage et beaucoup soleil. Dans le Cotentin, il pleut, quelle est douce notre France. Alors les températures, Avignon de 11 à 21, à Bordeaux de 7 à 18, à Brest de 8 à 13, à Dreux de 7 à 17, à Marseille de 8 à 22, Montpellier 12 à 23, Paris 8 à 18, Reims 5 à 17, Vienne 8 à 18, Martinique 23 à 29, à Nouvelle-Calédonie 22 et 30, Tahiti 21 à 28, et Saint-Pierre-et-Miquelon 1
et moins 1.
Hey, c'est Slimane, la 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 la.
Dites-moi, vos accents créoles ont été mis au point avec Michel Lay, vous vous
oui,
êtes
non,
pris,
non, non,
ou c'est tout seul que vous travaillez?
Je me suis entraîné
hier. Ah oui, c'est remarquable, vraiment, c'est de haute qualité. Hein, demain, vous me ferez la Touraine en accent.
Ça marche.
Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Jacques Souvent est dans la rue, je crois.
Jacques Souvent, des blousons, des chemises, des pantalons.
Un restaurant. J'ai pas compris la question.
Il vous chatouille?
C'est Carl et Augustin?
Non, c'est pas Carl et Augustin, c'est Anne et Valentin.
Anne et Valentin. Et le patron, là, il a combien de minutes de retard?
Je sais pas. Il est pas en retard. Je suis à l'antenne.
Bah oui, c'est à l'antenne.
Ah oui, c'est un. Oui.
Bonjour.
Bonjour, moi aussi, ça me fait marrer, je ne sais plus pourquoi.
Il a pas de retard, le patron, là.
Il n'a pas de retard, c'est moi qui suis en avance.
Ouais, ouais, ouais.
Non, c'est vrai.
C'est un peu comme par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, c'est ça, c'est
on
pas
est,
l'autre.
On est au rond-point, où est-ce qu'on est? Porte de Montreuil.
Porte de Montreuil, oui.
Et donc, comment vous vous appelez?
Aude.
Bonjour, Aude.
On est en train d'attendre oui. Son patron qui n'arrive pas.
Ah, ça, il est pas en retard, je tiens à préciser, c'est moi qui suis en avance.
Est-ce que c'est ce problème des patrons qui n'arrivent pas, est-ce que c'est un problème qui dépasse peut-être la région Île-de-France?
Non, je crois pas. Je peux pas répondre à la question.
Est-ce que vous pensez qu'on attend un patron
Non, je sais pas.
Vous aimez bien avoir un patron ou vous aimez patronner vous-même?
Les deux.
Vous patronnez qui? Vous patronnez
Je ne patronne personne, je ne patronne moi-même déjà.
C'est ah, bien. C'est pas tous les jours facile.
Vous pensez que votre patron écoute Radio Nova dans la voiture ou...
Je pense, oui.
Bien sûr. Mais il écoute peut-être sur une autre radio, il écoute peut-être Nova sur RTL ou sur Énergie. Dites-moi, Aude, moi aussi j'aimerais bien être chatouillée comme vous ce matin. Anne et Valentin, c'est le nom de votre établissement?
Pas du tout, c'est le nom de ma marque de lunettes. Rien à voir.
Non mais mes enfants là, moi je suis obligé de... Quel est le plus pour l'antenne? Donc Anne et Valentin, c'est un homme et une femme qui se sont mis à deux. Qui a fait quoi? Les verres c'est Anne et la monture c'est Valentin?
Je sais pas du tout.
Bah, appelez, rappelez-nous. Elle est en forme, vous êtes déchaînée.
Moi, j'ai les mains derrière le dos, hein. Je ne fais rien.
Mais c'est de la chatouille mentale, là. Vous la chatouillez avec les yeux?
Pas du tout.
Mais quel est ce rire magnifique qui est caché en vous et qui sort si facilement?
Il n'est pas magnifique.
Ah si?
Non, il n'est pas magnifique.
Si, parce qu'il est communicatif.
Ah, c'est gentil, merci.
C'est ça qui est magnifique.
Ce petit trèfle en pendentif, là.
Mon Dieu.
Mais vous allez arrêter de disséquer vos patients.
Ce petit trèfle qui pendouille dans son réceptacle transparent.
C'est un trèfle à quatre feuilles?
Oui.
Quatre feuilles, ça porte bonheur. Trois feuilles, oui. Ça fait quoi?
Je sais pas.
Deux feuilles?
Je sais pas.
Zéro feuille?
J'en ai aucune.
Zéro
idée.
De feuille, pas de trèfle. Aude, je vous souhaite une très belle journée. Je vais aller faire une dépression, je reviens. D'autres questions au studio à Aude, là, Mehmed, François?
Non, toujours mais... pas de patron à l'horizon, rien. Un camion, c'est... un vélo qui passe, c'est... un homme avec une canne.
Un homme, patron. Un patron.
Non, pub et colis.
Un fusil, non. Un citoyen. Salut, non, salut Jack. Vous êtes habillé comment, Jack, souvent ce matin, vous?
J'ai changé.
Attendez, on va vous mettre une musique. On érotise. Décrivez-nous la tenue de Jack souvent, Aude.
Alors, il a des boots marrons avec un jean, peut-être un peu trop large. Une chemise à carreaux et un manteau bleu marine.
Waouh!
C'est génial!
Hello! Encore?
Non, mais j'ai fini!
Et vous pensez qu'il est plutôt slip, caleçon ou j'ai pas eu le temps?
J'ai pas eu le temps.
Eh oui! Allez! Très belle journée.
Merci
à tous. Oulala. Eh oh, hey, t'es fou, non? Oh, arrête, continue. Non, oui, je ne sais plus. Quelle folie. Allez, à tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
En ce moment, c'est ce qui te fait de mieux. Tout à l'heure, on était dans la rue. Il y avait Aude nous décrivait ses lunettes. Et il y a un auditeur qui a vite appelé disant qu'il connaissait ses lunettes. Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Madame, j'entends très mal.
Non, monsieur.
Monsieur, vous avez réagi à cette histoire de lunettes Aude et Valentin? Anne et Valentin.
Anne et Valentin.
Oui.
C'est Edouard.
Oui, vous connaissez cette marque de lunettes?
Oui, je suis opticien, c'est mon métier. Donc voilà, ça m'a fait réagir. Donc je voulais vous dire que c'était un créateur parisien et donc ils font des jolies lunettes, mais ça coûte une blinde, Anne et Valentin. Il faut avoir un peu de thune pour porter ça.
Ah oui, donc on était vraiment sur de la grosse thune tout à l'heure au téléphone. Voilà. Vous êtes vous êtes où?
Je suis près de Laval.
Près de Laval, vous êtes...
À Changé, exactement.
Qu'est-ce que vous vendez de plus, vous, comme type de lunettes?
Oh bah, moi, c'est pour une clientèle plutôt âgée, donc pas ce genre de marque-là, effectivement. puisque c'est des coûts assez importants qu'on trouve beaucoup sur Paris ou les grandes villes en tout cas.
Et quand on vieillit, on va vers quel type de monture?
De plus en plus discret.
vous êtes une belle vache. Non, moi je commence à mettre des lunettes pour lire, mais je sais pas comment ça s'appelle, presbyte ou astigmate. Mais moi je suis très attaché à mon look, donc j'ai des montures très très maniérées.
Alors, en tout cas, ça vous va très très bien. Je vous adore, Edouard. C'est vraiment un plaisir.
Merci. Continue à le dire à l'antenne. C'est bon pour mon égo. Belle journée. Merci d'avoir nous avoir informés sur ces lunettes. Retour en studio sur une musique vraiment qui intensifie le moment. Nous sommes avec Yann Perrault, l'auteur d'Incognito, Thomas Baumgartner.
Oui, Incognito, Anonymat, histoire d'une contre-culture qui vient de paraître chez Grasset, un livre à la fois actuel et en même temps paradoxal, à l'époque où justement les visages des uns et des autres s'affichent, où la traçabilité est une des données de l'époque. Et puis donc à ce moment-là arrive ce livre, Incognito, qui fait un peu le tour des différents modes d'anonymat depuis un petit bout de temps. Bonjour Yann Perrault.
Bonjour.
C'est quoi? C'est une fascination pour justement l'acte sinon gratuit, en tout cas justement anonyme, qui vous a poussé à faire cette étude, hein, parce qu'il y a plein d'histoires, mais ça vous a pris 2 ans et vous plongez dans la question de l'anonymat et de l'incognito.
Oui, c'est une fascination que j'ai depuis très longtemps et j'ai découvert en fait qu'il y a toute une contre-culture, comme disait Graham Marcus, d'individus masqués. On peut remonter même à Ulysse qui dit au Cyclope s'appeler personne pour lui échapper. Et finalement, tous les individus qui ont, pour échapper à la censure, pour s'exprimer librement, pour se réinventer autre, comme disait Rimbaud, qui sont comme ça passés le relais jusqu'à aujourd'hui, Anonymous, Banksy, Daft Punk, lanceurs d'alerte.
Mais depuis Ulysse jusqu'à Daft Punk, il y a une histoire comme ça, il y a un lien possible à faire à travers cette question-là de ne pas savoir qui parle ou qui fait.
Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que au-delà des motifs qui sont multiples et variés, c'est avant tout quelque chose de ludique de se réinventer autre. C'est une histoire de dada, de calembour, d'énigmes, de cache-cache. Et donc tout ça se renvoie dans l'histoire, donc comme une contre-culture d'une personne à l'autre, d'un personnage à l'autre, comme un jeu de masque.
Il y a la question du pseudonyme aussi. Il y a une figure sur laquelle vous vous arrêtez qui est Romain Gary. Et finalement, la postérité de Gary tient aussi maintenant, aujourd'hui, de plus en plus aux plusieurs doubles en fait, qui s'est fabriqué. Et là aussi, il y a un intérêt personnel pour cette figure-là.
Oui, alors là, exactement, c'est effectivement un très bon exemple parce que Romain Gary... quand on regarde en fait le détail, ce que j'ai fait dans mon livre de Romain Gary, il écrivait des pages entières de pseudonymes, de noms de plumes, puisque sa mère lui disait « tu vas être un grand écrivain, tu vas être… » Et il a comme ça inventé, il passait des heures à écrire comme ça des pseudos. Donc ensuite, on connaît évidemment Émile Ajar, ça c'est finalement son dernier nom de plume. Auparavant, il en a eu trois autres. Et à chaque fois, c'était une façon de pouvoir se réinventer en écrivant différemment. Et alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est que donc on comprend à la fois son histoire personnelle. Même Romain Gary, c'est pas son nom et son prénom d'origine. Il a francisé son prénom parce qu'il avait un prénom et un nom juif et c'était compliqué, évidemment, à l'époque. Et ensuite, ce qui est intéressant avec lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des histoires un peu rocambolesques, c'est que finalement, lui, il crée sa créature Émile Ajar. Donc, il gagne le Goncourt en tant que Romain Gary, il commence à avoir un certain âge et il dit « je vais me réinventer en écrivant sous pseudo des livres Émile Ajar ». Et hop, il regagne le Goncourt et finalement il devient connu. Et du coup, il est un peu coincé parce qu'il est obligé d'incarner le personnage fictif qu'il a créé. Donc il envoie son neveu qui joue très bien le jeu, qui se prête aux questions, qui joue le personnage imaginaire d'Émile Ajar. Et là-dessus, évidemment, le neveu se prend en jeu et commence à, de lui-même, dire des choses, écrire, échapper. Donc la créature échappe au créateur.
Oui, alors là, le neveu est même devenu fou après, puisqu'il a écrit tout un livre là-dessus, sur l'homme comme l'on croyait. Alors ça, c'est une autre forme d'incognito, c'est l'idée de se prolonger par une autre identité. Il y a aussi l'écrivain portugais Pessoa, enfin, en littérature, ça existe. Mais moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est l'idée d'essayer de la disparition de l'ego pour que la parole porte. Ça c'est autre chose chez les Anonymous, par exemple. C'est quoi l'idée? C'est que la parole ne doit pas être incarnée par un visage? C'est contre l'ego, contre quoi?
Absolument, c'est contre la culture de la célébrité, c'est contre aussi cette vision un peu limitée de la politique, par exemple, qui serait une mise en scène de soi. Parce qu'au fond, la politique est une affaire d'anonymat. Au début, le vote dans l'isoloir, ou même le vote anonyme à Athènes. Simplement, on a dû, pour des raisons pratiques, créer une démocratie représentative. Et au fond, ce que tous ces mouvements, effectivement, anonymes disent, de Nuit Debout à Camille, à Les Ades, à Anonymous, c'est que la politique peut-être... Enfin, il y a une nouveauté à une forme d'anonymat. Et en fait, ce qu'aussi on réalise, c'est que l'anonymat a toujours été limité à une forme de lâcheté, de fuite, versus l'intellectuel courageux qui s'engage voilà, sur la place publique. Mais tout ça, c'est vraiment des vieux concepts. Enfin, c'est complètement dépassé. Donc il y a une forme de nouveauté politique, en effet.
Vous pensez qu'il peut y avoir une pensée forte qui se balade, qui atteint les gens, si elle n'est pas incarnée par quelqu'un?
Absolument. D'ailleurs, là, oui.
Non, oui,
Mais c'est pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un art sans artiste, par exemple?
Oui, alors ça aussi, c'est passionnant. C'est tous ces artistes qui, d'ailleurs, dans les années 60 et encore aujourd'hui, créent en disant que l'artiste est une vieille notion. Enfin, la notion d'auteur. Roland Barthes disait parler de la mort de l'auteur dans les années 60. Et aujourd'hui, quand on voit tous les écrivains, tous les artistes qui créent des œuvres sans qu'on sache qui est derrière ou sans se mettre en scène également. C'est aussi l'idée très simple de revenir à l'œuvre d'art et non pas à l'artiste. Parce qu'effectivement, à l'époque, comme vous disiez, où on n'arrête pas d'être dans la mise en scène de soi et sur les livres, on va à la tête des auteurs sans arrêt, certaines personnes décident de s'effacer pour que leur œuvre parle plus que eux, ce que font par exemple les
Daft Punk. La question du remix. La question du remix aujourd'hui, c'est utiliser des œuvres existantes pour recréer, mais sans qu'il y ait de nouveaux auteurs. Il y a aussi une forme de disparition de l'auteur dans la musique, par exemple.
Exactement. Et alors, ce qui est passionnant par rapport à la musique, c'est que les musiques électroniques, au départ, sont anonymes. C'est-à-dire qu'il y a et le fait de remixer en effet ou de copier-coller, qui montre que finalement, il n'y a plus la vieille notion ringarde de l'artiste qui crée dans sa tour d'ivoire. Et par ailleurs, les premiers DJ étaient anonymes. D'ailleurs, les Daft Punk font référence dans Teachers, dans Homework, à Underground Resistance, par exemple, qui était un collectif de Détroit. Et qui, eux, appelaient à la révolution sonore et qui refusaient les interviews et étaient toujours habillés, masqués. Parce que c'est le DJ, il tourne la scène au public, il mixe, personne ne le regarde et tout le monde peut danser librement.
Alors, évidemment, il n'existe pas physiquement, mais enfin, c'est quand même une posture, c'est un nom qui existe, comme Banksy. C'est-à-dire, il y a une posture quand même, Marty. Il y a quand même quelqu'un. Est-ce que ça ne serait pas inquiétant de dire, tiens, mais il n'y a personne derrière, enfin, derrière les projets, derrière les idées, qu'il n'y ait plus personne, que ce soit des choses qui. Une sorte de génération spontanée, artistique ou de pensée.
Ce que je trouve passionnant avec Banksy en particulier, c'est exactement ça, c'est que Banksy finalement c'est plutôt un personnage, mais c'est presque Batman. On se fiche de savoir qui est, on devrait se ficher de savoir qui est derrière Banksy, comme Elena Ferrante récemment. Pourquoi chercher à savoir qui est derrière ? Ce qui est beau, Banksy, c'est un personnage, c'est un peu un mythe, c'est un héros.
Ça pourrait être un collectif, par exemple.
Ça pourrait être un collectif, il y a plein de pistes. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est derrière le masque. Je me suis rendu compte qu'on n'apprend rien, parce que les motivations sont personnelles et complexes. Finalement, pourquoi vouloir toujours démasquer ça aussi ?
Il y a eu une enquête il n'y a pas très longtemps sur Banksy. L'idée sur laquelle ce serait un membre de Massive Attack, parce qu'il y a quelqu'un qui a croisé les apparitions des graphes de Banksy et les dates de tournée de Massive Attack.
Il y a eu ça, mais il y en a une autre avant, qui montrait que c'était un type qui était à Bristol. Voilà, un garagiste, donc il y avait une photo dans un tabloïd anglais, qui disent Banksy, c'est ce type, etc. Et ils avaient pris des méthodes de criminologie, c'est-à-dire de recouper effectivement avec Google Maps les déplacements de l'individu ou du type de Massive Attack avec les œuvres que Banksy a reconnues. Mm-hmm. En fait, il y a plusieurs pistes. Mais finalement, ce qui est beau, c'est que Banksy, voilà, est quelque part personne et donc est tout le monde et donc est universel.
Mais on cherche quand même, c'est pas quand on s'est aperçu que Dieu, on l'a beaucoup cherché, Dieu est une femme noire, en fait.
Oui, alors ça apparemment, oui.
Et on la reçoit demain, d'ailleurs.
Oui. Qu'est-ce que vous disiez, Marie ?
Non, vous disiez tout à l'heure que c'était un concept dépassé, le fait que l'anonymat soit lié à la lâcheté, à la fuite, etc. Mais il y a quand même un vrai côté obscur aujourd'hui sur Internet de l'anonymat, du troll. Enfin, ça existe et puis ça prend une part importante
bien sûr.
Sur Internet.
Et en fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que l'anonymat en tant que tel n'est pas ni bien ni mal, parce que ça peut être effectivement une forme d'obscur, comme vous dites. Donc je regarde vraiment le détail et moi c'est des personnages qui m'inspirent hein, qui sont là qui sont anonymes pour des raisons authentiques voire par nécessité comme des opposants politiques dans des pays liberticides qui pour s'exprimer ont intérêt à être anonymes.
Dis donc, ça a l'air passionnant votre incognito chez Grasset, Yann Perrot.
C'est une histoire de plusieurs contre-cultures, mais que vous rassemblez dans ce livre, effectivement. Et on peut terminer par une citation. Il y a la phrase d'Oscar Wilde que vous citez à plusieurs reprises, Yann Perrot, dans votre livre. C'est lorsqu'il parle en son nom que l'homme est le moins lui-même. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité.
Et voilà.
Merci Yann Perrot.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Oui, on était en train de se demander si on, vraiment c'était intéressant. Vous avez loupé, on se dit, est-ce qu'on met la pub avant la musique? Est-ce qu'on fait le jeu de François Rollin avant ou la musique avant? Et j'ai pensé, François, qu'il valait mieux peut-être faire un petit sas avant les infos de 9h en mettant la musique après votre jeu. Qu'en pensez-vous?
D'accord, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un test de personnalité. Les auditeurs sont vraiment très demandeurs de ça.
Il y a une grosse demande, c'est vrai. Oui. Les chiffres l'attestent, je crois. Les chiffres font
foi. Oui, parce que les gens ont besoin de mieux se connaître. D'ailleurs, le test que je vous propose ce matin, c'est un test qui va vous permettre de mieux vous connaître, surtout sur le terrain politique.
Ah oui, c'est important.
Voilà.
Et vous me disiez, par les temps qui courent.
Qui suis-je politiquement par les temps
qui courent? Par les temps qui courent.
Alors, première question. Tout le monde a son crayon, bien
alors,
sûr.
Alors, évidemment, oui, Atmen.
J'ai mon crayon et mon papier.
Première question, à titre personnel, vous voterez au premier tour de la présidentielle pour A, Jacques Cheminade, B, François Asselineau ou C, Nicolas Dupont-Aignan?
D'accord.
Deuxième question. Lorsque vous vous livrez au petit jeu des pronostics, vous voyez plutôt un second tour avec un duel A, Poutou-Cheminade, B, Arthaud-Dupont-Aignan ou C, Asselineau-Lassalle?
Oui.
Troisième question. Pour vous, la victoire au second tour de Jacques Cheminade est A, probable, B, très probable ou C, certaine? Alors, je vous donne les résultats. Si vous avez un A ou un B, non, un A et un B et un C, vous êtes ce qu'on appelle un petit peu dispersé. D'accord? Si vous avez 3A, 3B ou 3C, vous êtes plutôt du genre monomaniaque, donc A-fil, B-fil ou C-fil, respectivement. Et si vous avez 2M, 4W et 17P, c'est probablement que votre récepteur radio est mal réglé.
Voilà. Merci François Rollin. Et si vous êtes celui qui a conçu ce jeu, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vacances. De très longues vacances qui peuvent aller d'une semaine à 25 ans. C'est ce que je vous souhaite François, grâce à cette petite brochure que je vous fais passer, qui c'est Joie, vacances en banlieue de la banlieue. Puisqu'on vient de créer maintenant une nouvelle région qu'on met en périphérie des banlieues, on a décidé d'installer des nouvelles zones afin de décentrer les gens qui ne s'entassent pas tous dans les mêmes lieux. Voilà, vérifiez, vous voyez, c'est assez riant. Il y a une piscine qui fait aussi tennis et frigidaire.
Ça donne envie.
Ça donne envie, ça fait rêver et c'est gratos. Merci à tous.
Oui.
Atmen, vous n'avez pas beaucoup participé?
Non, mais j'étais bien, je peux être aussi spectateur.
Oui, je dis ça pour les auditeurs qui disent où était Atmen.
Mais c'est bien de laisser les autres agir de temps en temps. Moi, je suis un peu passif de temps en temps, c'est bien.
C'est pour rappeler que vous étiez là. Thomas Baumgartner, des interviews menées vraiment de main de maître. Très très bons échos. Ouais, merci à Armel M pour sa réalisation élégante, efficace et artistique. Bien sûr, merci à Eugénie Poumaillou d'avoir organisé cette émission. Merci à Marie Missé, à Thierry Paré. Merci à Tito Puente, Nicolas qui filme, qui met ça sur Internet après. Merci à tous. Quel bonheur, quelle joie d'être avec vous et d'aller parfois se recoucher après, non?
Immédiatement.
À demain, avec plaisir à 7h. Et voici maintenant les 30 Glorieuses. Salut. Les
voilà, voilà, et la sève et les larmes évanouies.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.